franceinter.fr.
Le journal vous est présenté par Olivier Bénis. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous. Le salon de l'agriculture s'est fini depuis quelques instants. Une édition qui a rassemblé plus de 670 000 personnes, plus que l'an passé, sur fond d'inquiétudes fortes du monde paysan. Une visite ministérielle attendue de pied ferme à Saint-Martin, 6 mois après l'ouragan Irma. Les habitants ont beaucoup de questions et de comptes à réclamer à la délégation gouvernementale qui a atterri tout à l'heure sur l'île. L'Italie sur le point de chambouler son parlement. Les élections législatives se poursuivent. Jusqu'à 23h ce soir, nous irons prendre le pouls de ce scrutin très disputé dans ce journal. Nous irons également à Los Angeles où Hollywood a revêtu sa tenue de gala pour les Oscars cette nuit. Cérémonie un peu particulière en plein mouvement MeToo. Côté palmarès, quelques Français ont de bonnes chances de partir avec une statuette dorée. Et puis juste après ce journal, nous ferons le point complet sur le week-end sportif. Ce sera avec Sarah Mansoura. Rendez-vous à 19h17.
Inter.
Adieu veaux, vaches, cochons et couvées, tous repartent vers les campagnes françaises après avoir passé une semaine à Paris. Le salon de l'agriculture est en train de fermer ses portes en ce moment même, porte de Versailles. Salon marqué par la colère et l'inquiétude des paysans français, relayés aux politiques qui ont fait le déplacement et notamment au président de la République. Mais aussi comme toujours, l'occasion de faire découvrir l'agriculture française et tout ce qu'elle a à offrir. D'ailleurs cette année encore, les visiteurs ont été particulièrement nombreux, Manuel Ruffez.
Les organisateurs peuvent en être satisfaits. 670 000 visiteurs, c'est 50 000 de plus que l'an passé. C'est surtout un chiffre qui continue à augmenter après les années de baisse post-attentat en France. Mais ce n'est pas tout. Ce salon se sera déroulé sereinement et pourtant tous les sujets qui fâchent y ont été abordés. Accords commerciaux avec l'Amérique du Sud, glyphosate, négociations avec les grandes surfaces. Jean-Luc Poulain, le président du salon, en retient trois moments clés.
La première visite d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, ça c'est un événement. Le nombre de délégations étrangères, on en parle peu. Mais on est à près de 70 délégations étrangères, c'est énorme, qui viennent quelquefois faire des achats de génétiques ou de semences. Et le troisième, l'ambiance générale qu'on a sur le salon.
Indéniablement, il y a aussi cette curiosité, voire ce soutien de la population au secteur de l'agriculture. Pendant 9 jours, les allées du salon n'ont pas désempli. Bertrand Ducret, du CEDUS, est exposant. Il représente la filière sucre.
On a vu un public très important tout au long de la semaine, à la fois les week-ends et pendant les jours de la semaine. Le salon de l'agriculture de Paris, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et je crois que c'est ça, c'est la rencontre, le lien entre la France et son agriculture. Et les gens viennent voir comment on passe du champ à l'assiette.
L'éleveur de la vache égérie du salon le disait en conclusion, il faut rapprocher les gens des villes et la ruralité. Sans agriculture, la France ne serait pas ce qu'elle est.
Le projet ne date pas d'hier, mais il est toujours aussi polémique. Enterrer des déchets nucléaires à 500 mètres sous terre, à Bure, dans la Meuse. Au fil des années, le site est devenu un lieu symbolique pour les militants anti-nucléaires. Une quinzaine d'entre eux s'étaient d'ailleurs installés sur place en 2016, avant d'être évacués le 22 février dernier. Ce week-end, ils étaient quelques centaines à manifester dans la commune, malgré une interdiction de la préfecture. Face à face tendue et qui dure, mais pour les militants comme Jérôme, pas question de simplement quitter les lieux, même après l'évacuation.
Pour ce qui est des pros et des anti-CIGEO, il faut voir que malgré tout, il y a quand même un tiers du village donc, qui ont été requérants, donc qui sont allés en justice pour contester l'échange du bois Lejus avec un autre bois. Enfin, cet échange qui a permis à l'Andra de s'accaparer ce bois. Donc un tiers, c'est pas rien. On n'est pas là face à un projet d'aéroport, un projet de center park ou je sais pas quoi. Là, on est face à un projet de poubelle nucléaire. C'est-à-dire qu'on va en fait sacrifier votre territoire pour des milliers d'années. Et ça, les gens le ressentent dans leur tripes, dans leur cœur, quoi. Vous les voyez pas forcément sortir, les gens. Ils vont pas forcément en manifestation, c'est sûr. Mais les gens, ils sont en colère, en fait. Parce que qu'est-ce que ça leur dit de leur territoire quand on choisit à Paris que c'est votre territoire, votre petit village rural qui va accueillir les pires rebuts toxiques de notre modernité? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de ce qu'on est, nous? Et les gens sont peut-être parfois un peu fatalistes, mais ils sont contre ce projet.
Propos recueillis par Pauline Penanec. Notez que 8 manifestants ont été placés en garde à vue aujourd'hui pour attroupement irrégulier et violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique. De nouvelles avalanches ce week-end ont fait 2 morts en Haute-Savoie aujourd'hui. Point, on l'espère, final à ce week-end justement très dramatique dans les montagnes françaises, avec notamment l'avalanche la plus meurtrière de cet hiver dans les Alpes-Maritimes qui a fait 4 morts vendredi. Aujourd'hui, ce sont 4 coulées de neige qui ont frappé la Haute-Savoie, dont 2 près de Chamonix. Les précisions de Kathleen Comte.
Les deux avalanches meurtrières se sont produites à Valorcine, près de Chamonix, à la frontière suisse. La première a emporté 4 personnes, 3 skieurs belges accompagnés de leur guide qui évoluait en hors-piste. Bilan, 1 mort et 1 blessé grave. L'autre skieur et le guide s'en sortent indemnes. La deuxième a pris au piège un skieur qui évoluait également en hors-piste. D'abord retrouvé en arrêt cardio-respiratoire et réanimé, il a été transporté à l'hôpital de Sallanches où il est finalement décédé. À Valorcine, toujours, une troisième avalanche a emporté 3 skieurs qui, eux aussi, étaient en dehors des pistes. 2 s'en sont sortis indemnes, le dernier gravement blessé à un traumatisme crânien. Enfin, plus tôt dans la journée, à Samoan, une première avalanche avait emporté un couple suisse parti faire de la randonnée raquette. La femme s'en sort indemne, choquée, elle a été transportée à l'hôpital de Sallanches. Son mari, lui, est enseveli, il n'a pour le moment pas été retrouvé. Les recherches sont désormais stoppées pour la nuit et ne reprendront que demain, car le secteur est très difficile d'accès, a précisé la préfecture. Les enquêtes ont été confiées au parquet de Bonneville.
La préfecture de Haute-Savoie qui avait placé ce week-end le département en risque avalanche 3 sur 5 et même 4 sur 5 au-dessus de 2200 mètres. Souvenez-vous, c'était il y a 6 mois, l'ouragan Irma atteignait les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ravageant les habitations, tuant 11 personnes, des centaines de millions d'euros de dégâts et un très fort sentiment d'abandon. Aujourd'hui, le gouvernement veut montrer qu'il n'oublie pas et qu'il agit avec un déplacement très symbolique d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Leur délégation est arrivée il y a un peu plus d'une heure, 6 mois après une autre visite symbolique, Thibault Lefèvre.
Il y a 6 mois, Emmanuel Macron entame son premier jour de visite à Saint-Martin et Saint-Barthélemy quand il est interpellé par une habitante de l'île très remontée.
Croyez-moi, monsieur Macron, dans 6 mois, si c'est construit, je vais vous appeler monsieur le président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi monsieur Macron, Emmanuel.
Je le ferai.
Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi.
Pas pour que vous... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu?
Aujourd'hui, Lila vit avec ses 2 enfants dans une petite maison qu'elle loue presque 30% plus cher qu'avant le passage de l'ouragan. Ça fait 3 ans que cette kinésithérapeute est à Saint-Martin.
Nos ministres et monsieur Emmanuel Macron, ces ministres sont là pour faire quoi? Pour nous regarder, pour voir la misère et dire on pense à vous, on essaye, on va faire quelque chose pour vous et en fin de compte, il n'y a rien. La plupart des choses sont détruites. Regardez juste à l'extérieur. Il y a des maisons où il n'y a pas de toit, où il n'y a même pas de bâche. Il y a des gens qui sont partis. C'est plus Saint-Martin comme avant.
Et pourtant, l'État a mis la main à la poche. 300 millions d'euros pour déblayer les voies de circulation, remettre sur pied les réseaux et maintenir les services publics. Sans doute pas assez pour convaincre une partie des Saint-Martinois, comme André, de rester.
Je suis un gars actif, j'aime bouger, j'aime le challenge, j'aime construire, j'aime entreprendre, j'aime et c'est bloqué. Au stade où ça va, ben moi ça m'a dégoûté un peu parce que j'avais pas envie de partir. Je veux bien rester à Saint-Martin, c'est mon île, il faut qu'on reconstruise, je veux pas partir, mais c'est chaud quoi, 6 mois après quoi.
Environ 8000 personnes sont parties depuis le passage d'Irma. Aujourd'hui, la priorité n'est pas à la reconstruction, mais à la réparation dans l'urgence, avec en ligne de mire le début de la saison cyclonique dans 4 mois.
Et demain matin, vous pourrez retrouver sur notre site franceinter.fr un dossier complet sur l'état de Saint-Martin 6 mois après la catastrophe, en images et en vidéo.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
C'est un scrutin majeur qui se joue en ce moment pour l'Italie, les élections législatives qui vont sans doute remodeler largement le Parlement local après une campagne particulièrement âpre, centrée sur la question de la crise migratoire, un paysage politique en pleine mutation entre la montée de l'extrême droite notamment et le succès grandissant des mouvements populistes. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Italie et les premières estimations de participation sur ce scrutin viennent de tomber.
Oui, participation à 19h, hein, on en est à plus de 57% de participation selon le ministère de l'Intérieur, mais cela évolue. Les données de toutes les communes ne sont pas encore remontées à Rome. En tout cas, il semble que les Italiens aient décidé de se faire entendre aujourd'hui avec des files d'attente, hein, toute la journée dans les bureaux de vote des grandes villes en particulier, des embouteillages d'électeurs littéralement à Milan ou à Rome. Alors cela est dû en partie au nouveau système électoral, complexe en Italie. Les assesseurs ont pris le temps d'expliquer à chacun comment voter. députés. Alors, quelles sont les tendances? Aucun sondage n'est publié en Italie depuis 2 semaines, ce qui est long dans une campagne électorale. Les intentions de vote ont pu évoluer. La droite était donnée en tête. Il y a en tout cas 2 percées éventuelles à surveiller ce soir, celle du mouvement 5 étoiles, qu'on dit fort dans le sud, et une partie du centre acquise historiquement à la gauche, et puis l'éventuelle percée de la Ligue de Matteo Salvini, l'extrême droite alliée de Silvio Berlusconi dans cette campagne. Si la coalition de droite arrive largement en tête et que la Ligue conquiert plus de votes que la droite modérée, eh bien c'est Matteo Salvini qui deviendrait président du Conseil. C'est l'un des scénarios envisagés ici, mais les bureaux de vote ne ferment qu'à 23h et les premiers résultats fiables nous parviendront au milieu de la nuit.
Merci beaucoup Mathilde Imberti en direct de Rome. Donc, c'est un électrochoc également pour le football italien aujourd'hui. La mort soudaine de Davide Astori, 31 ans, capitaine de la Fiorentina, décédé la nuit dernière suite à un malaise cardio-circulatoire de cause naturelle. Le joueur comptait notamment 14 sélections avec l'équipe nationale d'Italie. On reviendra plus longuement sur cette disparition juste après ce journal dans Intersport. Peut-être bientôt de nouvelles élections en Slovaquie après le meurtre d'un journaliste qui enquêtait sur une affaire de corruption au plus haut niveau en lien avec la mafia italienne. Meurtre qui a provoqué là encore un choc dans tout le pays. Pour le président slovaque Andrej Kiska, il n'y a désormais que 2 solutions. Un remaniement en profondeur du gouvernement ou des élections anticipées. Au Burkina Faso, l'enquête sur la double attaque de vendredi à Ouagadougou progresse. L'attaque a été revendiquée par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Groupe qui avait déjà diffusé cette semaine une vidéo de l'otage française Sophie Petronin. Un suspect djihadiste a été arrêté dans les heures qui ont suivi les attaques. Il est aujourd'hui entendu par la justice. Fanny Noireau-Cabré.
L'homme est soupçonné d'avoir participé à l'attaque contre l'état-major. Il pourrait même s'agir d'un cerveau de l'opération. Ce dimanche, les investigations se poursuivent. On essaye aussi de savoir si l'incident de cette nuit est lié à l'attaque de vendredi. Vers 2h du matin, heure locale, 3 individus ont tenté de forcer un barrage de sécurité non loin du palais présidentiel. 2 ont réussi à s'enfuir. Le 3e a été abattu alors qu'il essayait de saisir l'arme du garde pour s'enfuir. Des zones d'ombre demeurent, notamment sur le motif de l'attaque. Le GSIM dit avoir agi en représailles à la mort de plusieurs dirigeants du groupe mi-février dans un raid mené par l'armée française au Mali. Mais la double attaque de vendredi n'a pas pu se préparer en 2 semaines vu le niveau de précision. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive, une situation accentuée par les forts soupçons d'infiltration au sein de l'armée. À Ouagadougou, Fanny Noireau-Cabré, France Inter.
En Syrie, le régime de Bachar el-Assad a repris 1/4 du fief rebelle de la Ghouta orientale après 15 jours de bombardements meurtriers qui ont poussé l'ONU à exiger un cessez-le-feu d'un mois. On estime que 650 civils ont été tués sur place. L'aide humanitaire sur place qui a beaucoup de mal à accéder aux populations. Un convoi humanitaire d'une 40aine de camions, notamment envoyé par l'ONU, s'est ainsi retrouvé coincé aujourd'hui aux portes de la région. Cet après-midi, Emmanuel Macron a appelé Hassan Rouhani, le président iranien, pour lui demander de faire pression sur son allié syrien et de mettre fin à ses attaques. Allez, vous reprendrez bien une louche de cérémonie cinématographique après les Césars vendredi soir pour les Français. Ce sont les films américains qui passent sur le grill cette nuit avec les Oscars, une soirée sur laquelle flottera évidemment l'ombre de l'affaire Weinstein et de la mobilisation contre les violences faites aux femmes qui a remué Hollywood ces derniers mois. En ce qui concerne les films, ils sont 9 à se disputer l'Oscar du meilleur long métrage, dont La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, 13 nominations à lui tout seul, soit presque 2 fois plus que l'autre favori, Three Billboards de Martin McDonagh. Loïc Piala, vous êtes notre correspondant à Los Angeles et parmi les candidats aux récompenses ce soir, quelques Français ont quand même réussi à se faire une place.
Écoutez, Agnès Varda est déjà entrée dans l'histoire des Oscars, c'est la nommée la plus âgée en 90 ans de cérémonie. Elle a de grandes chances de devenir l'oscarisée la plus âgée. Visage Village, le documentaire qu'elle a co-réalisé avec l'artiste JR, est favori dans sa catégorie. Autre favori, Alexandre Desplat, le compositeur a déjà gagné un Golden Globe pour la musique de La Forme de l'eau, ce serait le 2e Oscar de sa carrière, 3 ans après Grand Budapest Hotel. Lui ne part pas favori, mais Bruno Delbonnel, chef opérateur des Heures Sombres, est nommé une énième fois aux Oscars, c'est un vétéran de l'industrie, à l'inverse de ses 6 ex-étudiants de Supinfocom. Leur film de fin d'études, Garden Party, est en lice dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, face notamment au géant Pixar, c'est l'une des belles histoires de cette cérémonie. À Los Angeles, Loïc est là pour France Inter.
Et puis retour en Europe où les Suisses garderont leur télévision et leur radio publique et même la redevance qui va avec. Ils ont voté massivement non à la votation qui visait à supprimer la redevance dans l'audiovisuel public, ce qui aurait mis en danger de mort les chaînes publiques suisses. Plus de 70% des électeurs ont rejeté cette idée. La redevance suisse coûte actuellement 390 euros par an à chaque citoyen pour pouvoir alimenter des chaînes en quatre langues. Le gouvernement envisage d'en réduire le montant en 2019. Et puis petit rappel, si vous voulez devenir membre du jury du prix du Livre Inter, ne traînez pas, vous avez jusqu'au 13 mars pour être candidat pour participer et rejoindre notre jury de 24 lecteurs présidé par Leïla Slimani. Racontez-vous, racontez-nous vos lectures sur franceinter.fr ou par courrier Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. On passe tout de suite à la route avec vous Thomas Schoner, bonsoir.
Point route avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets, en ligne ou en agence. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Thomas Schoner, donc au PC Mobilité de Radio France, bonsoir.
Bonsoir. On a quelques difficultés à vous signaler en région parisienne. C'est très calme, sinon un point dimanche de retour de vacances. Mais c'est vrai qu'on a quelques accidents. Au sud de Paris, on a deux voitures sur la bretelle de sortie. Quand vous quittez l'A6 pour prendre la N104 à hauteur d'Evry, il faut attendre un petit quart d'heure avant de pouvoir passer. On avait un accident dans le tunnel de Fresnes. La route a priori a été dégagée, mais il reste toujours 20 minutes de bouchon en amont sur l'A86 en intérieur. En Côte d'Or, on a toujours un peu de ralentissement en direction de Paris sur l'A6 au moment de croiser l'A38. Et puis attention, on nous signale trois chevreuils en Corrèze sur l'autoroute A20. C'est dans le sens Brive-la-Gaillarde-Limoges. Ils ont été vus près de Salon-la-Tour.
Merci Thomas Schoner pour ce point route et gibier donc.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de collants, chaussettes, soquettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, uni ou en dentelle, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Un petit coup d'œil vers le ciel avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Notre pays va rester cette semaine sous l'influence d'un vaste système dépressionnaire centré vers les îles britanniques, organisant un défilé de perturbations. Cette nuit, nous allons retrouver un temps pluvieux autour de la Méditerranée avec des pluies parfois soutenues. Demain, ces pluies régulières vont stationner du Languedoc-Roussillon à la région PACA en débordant vers la région Rhône-Alpes. Il va neiger dans les Alpes du Sud à partir de 1200 mètres et dans les Pyrénées-Orientales au-dessus de 1400 mètres. Attention au risque d'avalanche qui reste élevé sur ces massifs. Partout ailleurs, temps maussade et gris avec des brouillards le matin dans le nord-est. Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest apportant des pluies instables et un vent assez fort de secteur sud-ouest gagnant les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie. Côté température, les minimales seront encore voisines de 0 ou 1 degré dans le nord-est, comptez 1 à 9 degrés ailleurs. Les maximales afficheront 8 à 14 degrés en général, localement 15 à 17 degrés dans le sud-ouest.
France Inter. Comme promis, à 19h17, on passe au sport sur France Inter avec vous, Sarah Mansoura. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de revenir sur les championnats du monde d'athlétisme à Birmingham, décidément, en Angleterre, on débute ce journal avec les résultats de Ligue 1 de football. C'est plus facile à prononcer.
Avec d'abord cet après-midi la bonne opération de Caen qui s'est donné un peu d'air en battant Strasbourg 2-0. Et ensuite, le faux pas des Lyonnais en déplacement à Montpellier. Sous une pluie battante, l'OL s'est laissé surprendre et concède le match nul 1 partout. L'OL qui laisse encore filer des points après son nul face à Saint-Etienne le week-end dernier, Antoine Serre.
Lyon était venu dans l'Hérault pour se remettre sur pattes. C'est raté. Sixième match sans victoire en Ligue 1. Troisième nul consécutif après Lille et Saint-Etienne. Une telle série n'était pas arrivée au GON depuis 2 ans. Sous une pluie battante au stade de la Mosson, les Montpellierains ont ouvert le score à la 8e minute par le biais de leur attaquant belge Isaac Mbenza sur un centre d'Aguilar. Trop approximatif, ne cadrant que peu de frappes. Il faudra attendre la 57e minute pour que Mariano égalise. 16e but de la saison pour l'ancien attaquant du Real de Madrid. Ce partage de points n'arrange personne. Lyon reste 4e à 4 points de la 3e place, occupée par l'OM qui joue ce soir contre Nantes. Montpellier, de son côté, perd encore 2 points à la maison. 2 points qui pourraient coûter cher dans la lutte pour la 5e place, qualificative, on le rappelle, pour la Ligue Europa.
Et le match de clôture, vous le disiez, se oppose ce soir l'Olympique de Marseille au FC Nantes. C'est l'occasion pour l'OM, non seulement de continuer à engranger des points pour tenter de rattraper Monaco qui occupe la 2e place, mais surtout de vite refermer cette vilaine parenthèse qu'ont connue les Olympiens. 2 défaites d'affilée contre le PSG en championnat et en Coupe de France, 2 défaites sèches avec le même résultat, 3-0. Alors, les joueurs sont-ils touchés au moral? Pas du tout pour l'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia.
On n'a pas besoin de leur redonner confiance. Ils ont confiance en eux, il n'y a pas de raison. Et on n'est pas 3e par hasard et en 8e de finale de l'Europa League par hasard. Donc voilà, il y a une équipe qui devra continuer à donner le meilleur de soi-même, qui devra faire au maximum pour être au mieux individuellement, parce que ça, il y a un travail de chaque seconde et de chaque heure de la part des joueurs quand ils sont pas avec nous. Et nous, on s'attache justement entre les temps de jeu, la récup ici, à faire en sorte qu'on ait une équipe compétitive, le plus compétitive possible sur les prochains matchs. À nous de garder une positivité qu'on trouvera pas ailleurs que chez nous, mais chez nous au moins on la trouve et on donnera tout pour de nouveau marquer des buts, gagner des matchs avec nos supporters au Vélodrome. Il y a que ça qui nous intéresse maintenant.
Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, au micro de Tony Cellier. Coup d'envoi de ce match de clôture à 21h à Marseille. Et une fois cette 28e journée de Ligue 1 terminée, les autres compétitions reprennent, notamment la Ligue des Champions J-2 avant le choc entre le PSG et le Real Madrid. 8e de finale retour mardi. Les Parisiens qui ont perdu 3-1 à l'aller vont jouer cette fois sans leur attaquant Neymar, opéré hier du pied au Brésil. Pour le latéral parisien Thomas Meunier, avec ou sans Neymar, il faudra assurer.
Aucun impact pour moi. Neymar est exceptionnel, il faut dire ce qu'il est, mais bon, on n'a pas d'excuses quand on a un groupe comme on a avec ou sans Neymar. On voit Di Maria, il pète la forme. Il y a bien d'autres joueurs qui peuvent apporter encore à l'équipe, comme Julian, je pense, qui peut encore jouer un cran au-dessus malgré ses bonnes dernières prestations. Pour moi, on a qualitativement le groupe, on l'a montré l'année passée face à Barcelone à domicile. On était une équipe du top européen, tout simplement. Et pour moi, avec ou sans Neymar, on se doit de montrer à l'Europe entière que le PSG est sur la carte.
Et l'échéance se rapproche pour les Parisiens, puisque le match retour, c'est mardi soir dès 20h45.
En Italie, le monde du football est en deuil ce soir.
Le défenseur et capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, est mort subitement la nuit dernière. L'international italien est décédé à 31 ans seulement dans sa chambre d'hôtel à Udine, alors que son équipe devait jouer cet après-midi un match de Serie A, le championnat italien. On ne connaît pas exactement les raisons de sa mort. Le club a annoncé un malaise soudain. En tout cas, le Calcio est extrêmement choqué, selon Stanislas Touchot, correspondant de l'AFP à Rome.
C'était un joueur assez discret qui fait une assez belle carrière, pas extraordinairement spectaculaire, mais une carrière solide. Il était international, il a une quinzaine de sélections. Il a joué à la Roma, il jouait 3 ans à la Fiorentina, qui est une des bonnes équipes italiennes. On voit que c'était un garçon très respecté, très aimé. Il n'était pas pour rien capitaine de la Fiorentina. Et très vite à Florence, les supporters se sont réunis devant le stade Artemio Franchi. Ils ont commencé à installer des banderoles où ils rendaient hommage à leur capitaine. Pour la Fiorentina, ça va être compliqué. Ça va être difficile de se remettre de cette nouvelle. Et dès dimanche prochain, ils ont un match à domicile à Florence contre Benevento. Et on peut imaginer que ce sera un moment très particulier et très émouvant pour toute cette équipe qui va désormais jouer sans son capitaine.
Et le maire de Florence, Dario Nardella, a annoncé aujourd'hui que sa ville observerait une journée de deuil lors des funérailles du footballeur Davide Astori. Tous les matchs de Serie A qui devaient se tenir aujourd'hui ont donc été reportés. Dans le reste des championnats étrangers, l'Espagne avait les yeux rivés sur un choc royal au sommet de la Liga aujourd'hui. Le leader contre le dauphin, Barcelone contre l'Atlético Madrid, et c'est le Barça qui s'est imposé. Victoire par le plus petit des scores, 1-0, grâce à un but de son capitaine Lionel Messi.
On passe au rugby avec le top 14 et deux rencontres pour cette 19e journée.
Le Stade français continue sa mauvaise série avec un 5e revers de suite. Les Parisiens sont allés s'incliner à Oyonnax, dernier du top 14. Une défaite 33-27 malgré 4 essais marqués. Ils sont toujours premiers non relégables. Tout à l'heure, Clermont a réussi à s'imposer à domicile contre La Rochelle. Une victoire des Clermontois 21-17. Les Rochelais ramènent tout de même le bonus défensif, mais c'est leur deuxième défaite consécutive. En Pro D2, le choc entre Béziers 6e et Bayonne 7e a tenu ses promesses. Au bout du suspense, l'AS Béziers s'est imposé sur l'Aviron bayonnais 35-30. Et pour terminer ce tour d'horizon des sports collectifs, du handball en barrage d'accession, retour au 8e de finale, Montpellier a battu les Espagnols d'Ademar León 20-19 et donc se qualifie en 8e de finale. En ce moment, le PSG affronte Kiel.
Allez, je retente. On part tout de suite pour Birmingham pour les championnats du monde d'athlétisme en salle.
Pour prendre des nouvelles de Renaud Lavillenie sur le saut à la perche, en direct avec nous sur France Inter, notre envoyé spécial Franck Ballanger. Et Franck, ça y est, Renaud Lavillenie est champion du monde.
Oui, de très bonnes nouvelles pour Renaud Lavillenie après son titre conquis en 2012 à Istanbul. Un autre conquis à Portland il y a 2 ans. C'est le 3e titre de champion du monde en salle pour Renaud Lavillenie qui s'impose grâce à un saut à 5,90 m à son 2e essai. Il devance l'Américain Sam Kendricks et Piotr Lizek, le Polonais, qui eux se sont arrêtés à 5,85 m. C'est exactement le même podium qu'il y a 2 ans et toujours Renaud Lavillenie au sommet le recordman du monde qui remporte là son 12e titre international. Là, il vient de choper un drapeau tricolore. Il va faire son tour d'honneur, accompagné donc par Sam Kendricks et Piotr Lisek. Il apporte à la France sa 3e médaille des championnats, après l'or de l'heptathlon pour Kevin Mayer et le bronze d'Aurel Manga sur le 60 mètres haies.
Effectivement, cette médaille de bronze, elle est pour Aurel Manga aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il l'a obtenue. Médaille de bronze sur le 60 mètres haies dans une épreuve remportée à domicile par le Britannique Andrew Poddy. Aurel Manga, très très satisfait de cette 3e place.
Je suis capable de faire de très gros départs à l'échauffement et arriver dans la course, je me bride un petit peu, mais je m'affole pas. Donc je me sens un peu en retrait sur le début de course et derrière je sais que je suis capable de. On a bossé pour que je sois capable de rattraper. Donc le travail paye et là j'ai pas lâché jusqu'à la fin et voilà, à la fin j'en sors avec une médaille, donc je peux être que content. Je tousse encore un peu, ça se voit peut-être moins sur mes yeux, mais là je suis vraiment content. Une médaille ça se fête, c'est pas l'or hein, parce que je parlais de la première place, mais ça reste une médaille, c'est ma première en grand championnat, donc ça se fête forcément. On a travaillé tellement dur depuis 3 ans. Et là, c'est la première, on va dire que j'ouvre un compteur. Maintenant, dès demain, on est de retour au boulot pour la suite, quoi.
Voilà, compteur ouvert pour Aurel Manga. Et sur cette épreuve, à noter que l'autre Français, Pascal Martineau-Lagarde, a terminé 5e.
Une semaine après la fin des Jeux Olympiques d'hiver, cap maintenant sur les Jeux Paralympiques.
Ils dureront du 9 au 18 mars prochain, toujours à Pyeongchang, en Corée du Sud, bien sûr. 670 athlètes en tout seront alignés sur ces épreuves. La délégation tricolore compte 12 athlètes et 3 guides pour les épreuves pour les non-voyants. Une délégation emmenée par la porte-drapeau Marie Bochet, quadruple championne paralympique en ski alpin à Sochi. Et porte-drapeau, eh bien, c'est un rôle dont elle est très fière, qui lui tient très à cœur.
Sportivement, on est vraiment plus. Enfin, on a beaucoup plus d'arguments là, pour la Corée qu'on en avait à Sochi. Et voilà, c'est une belle équipe. Il y a du renouveau aussi, donc il y a une belle énergie. Et je crois vraiment que ça va être une superbe Paralympiade. Et être le chef de file de tout ça, c'est vraiment un véritable honneur. Je suis très émue qu'on me fasse cette confiance. Bien sûr, je suis un peu la porte-parole aussi de cette équipe, mais je crois qu'avant tout, c'est la présence auprès des athlètes que je connais bien, que ce soit en alpin, en nordique ou en snowboard. J'ai des liens avec chacun d'eux et donc, j'ai vraiment envie d'être une capitaine proche de ces athlètes. Et qui donne des conseils aussi s'ils en demandent.
Et pendant que les athlètes français se préparent à ces Jeux paralympiques en Corée, ceux qui sont revenus des Jeux olympiques, eh bien, sont déjà de retour sur les pistes. Pas de vacances pour certains qui enchaînent déjà les belles performances dans différentes épreuves de Coupe du Monde. C'est un retour gagnant pour la plupart d'entre eux, Théo Dorangeon.
On se souvient des larmes de déception de Tesle 2. Une chute au second run et la finale olympique de slopestyle s'envolait. Depuis, les larmes ont séché, le visage de la championne du monde affiche à nouveau le sourire. La jeune fille de 16 ans a remporté hier la manche de la Coupe du Monde de Silva Plana en Suisse, un succès qui gomme quelque peu cet échec olympique. L'échec, justement, Perrine Laffont ne le connaît pas depuis un mois. Elle surfe, ou skie plutôt, sur la vague des Olympiades. Médaillée d'or en ski de bosse, la tricolore de 19 ans a bien géré l'après-jeu. Elle s'est imposée hier lors de l'étape de Coupe du Monde au Japon et devient leader du classement mondial. Alexis Pinturo, lui, avait quitté l'Asie, la Corée du Sud avec une médaille d'argent et une de bronze. De retour sur les pistes, le Français s'est classé 3e du géant de Kranjska Gora en Slovénie. Le skieur de Courchevel se disait très fatigué avant la course, mais il accroche un nouveau podium, son 4e de la saison. Pas de podium en revanche pour Pierre Vautier. Le double champion olympique de snowboard cross a été éliminé hier en demi-finale en Italie. Malgré tout, il conserve sa première place au classement de la Coupe du Monde.
Allez, un dernier résultat pour terminer, le Paris-Nice, Sarah.
Et oui, le Paris-Nice en cyclisme sur route, il a fallu attendre la photo finish pour en être certain. Mais c'est bien Arnaud Démare, le champion de France de l'équipe Groupama FDJ, qui s'impose sur cette première étape, 135 km entre Chatou et Meudon dans les Hauts-de-Seine.
Merci beaucoup Sarah Mansourad.